Vous écoutez RTL. RTL.
And the Oscar goes to...
Et l'Oscar est attribué à
Emma Stone.
Emma Stone dans La La Land.
Jusqu'à 22h.
I just heard you play.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était hier soir à Hollywood, la 89e cérémonie des Oscars. 6 statuettes pour La La Land. Un gros bug au moment de remettre le prix du meilleur film, on en reparlera tout à l'heure. Et puis 2 comédiennes au sommet, Emma Stone et Meryl Streep, dont on va raconter l'histoire tout de suite sur RTL. Bonsoir Carlos Gomez.
Bonsoir Thomas, bonsoir Sidonie.
Bonsoir, bienvenue.
Bienvenue, vous êtes journaliste spécialiste cinéma. Petite déception hier soir pour Isabelle Huppert, qui n'a pas remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Mais enfin bon, elle avait déjà été beaucoup primée. Un Golden Globe et le César, c'est ça ?
Oui, effectivement, elle a vu le Golden Globe un mois et demi plus tôt, ce qui était déjà beaucoup, quoi. La récompense suprême offerte par la presse étrangère qui travaille aux États-Unis. Voilà. Alors du coup, il y a une espèce de mirage, quoi. On y a cru parce que, généralement, il y a une espèce de. On dit que les Golden Globes sont l'antichambre des Oscars et que parfois l'histoire tend à se répéter. Sauf qu'il y a un détail qu'on oublie, c'est que au Golden Globe, on sépare les drames et les comédies.
Ah oui, c'est vrai. Il y a l'Oscar de la meilleure comédie, etc.
Exactement. Et du coup, se retrouvant en frontal avec Emma Stone, il pouvait pas y avoir match.
C'était la favorite.
Oui, c'était la favorite. D'ailleurs, il était pas très intéressant de miser le moindre euro sur elle selon les sites de paris en ligne, parce que je crois que pour un dollar misé, vous pouviez gagner 16 centimes. Enfin bref, c'était
d'accord, ça rapportait rien.
La cote renversée. Ça coûtait vraiment de l'argent de jouer la victoire d'Emma Stone.
Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, La La Land, c'est quoi le rôle d'Emma Stone dans ce film ?
Eh bien, Emma Stone joue une comédienne débutante, autrement dit une serveuse de café, qui essaye de se faire une petite place au soleil, qui sert des cappuccinos dans le bar qui jouxte le studio.
Qui va de casting en casting.
Elle
croit des stars hollywoodiennes, mais elle n'en est pas encore une.
Et puis elle croise un mort de faim comme lui, que joue Ryan Gosling, et qui lui, rêve de gloire aussi, mais sous forme musicale, puisqu'il est pianiste et qu'il veut ouvrir un grand club de jazz digne de ce nom.
Une performance complète pour Emma Stone. Elle joue la comédie, elle danse et elle chante.
Carlos Gomez, Emma Stone, elle a une voix plutôt grave au naturel dans ses films et elle chante assez haut.
Elle a une voix rauque et raillée. Ouais, ouais. Et c'est pas du fait des excès qu'elle ferait éventuellement, c'est juste une voix comme ça naturelle. Ouais. Que du coup elle a un peu travaillé, mais en chantant, ce qu'elle ne faisait pas jusque-là. Elle a appris surtout à respirer. En apprenant à respirer, tout d'un coup on élève un peu le spectre de la voix.
Emma Stone forcément émue en venant chercher son prix.
Un moment comme celui-là, c'est une confluence de chance, d'occasion qu'on a su saisir. Merci à Damien Chazelle de m'avoir donné l'occasion de faire partie de ce projet exceptionnel dans l'histoire d'une vie. J'ai encore beaucoup à apprendre. Il me faut continuer de travailler et de grandir. Mais cette statuette, c'est un symbole pour poursuivre ce voyage. Alors, merci. Merci.
Emma Stone aux Oscars, elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice. Elle remercie sa famille, Carlos Gomez.
Oui.
Quelle est son histoire ? De quel milieu vient-elle ?
Elle vient d'un disons la middle class américaine, tout à fait traditionnelle. Elle a grandi dans l'Arizona. Son père était entrepreneur. Elle a grandi d'ailleurs dans l'hôtel qui jouxtait le golf club dont son père gérait
La destinée.
Et elle a effectivement remercié son père, mais elle a commencé par remercier sa mère, et à juste titre, parce que c'est elle qui l'a convaincue au départ. Donc elle a fait, comme beaucoup de jeunes comédiennes comme ça, elle a fait du théâtre très tôt, quoi, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Elle multipliait les rôles dans des petites pièces comme ça.
Un peu comme son personnage, Carlos, je l'interromps, mais elle débarque à Los Angeles, c'est les gamines qu'elle a.
Oui, mais alors ce qui est amusant, elle a 15 ans, mais ce qui est amusant, c'est la manière dont elle débarque à Los Angeles. Parce qu'en fait, à 14-15 ans, elle veut vraiment faire que ça, mais il lui faut convaincre ses parents. Et comment elle s'y fait, comment elle s'y prend, elle monte un PowerPoint, elle défend son, elle défend son dossier qu'elle appelle Opération Hollywood, en créant un PowerPoint comme ça. Je crois que la musique de fond, c'était Madonna. Bref, elle joue. Elle y va
comme un grand oral, quoi.
Comme, et voilà. Et puis en fait, bah, elle passe l'examen. Les parents disent OK. La mère accepte de déménager à Los Angeles. La suit, lui donne des cours de comédie, lui donne des cours des cours à domicile, des cours privés pour continuer sa scolarité, ce qui lui permet à côté de ça de courir tous les castings.
Mais est-ce que comme son personnage dans La La Land, Emma Stone va travailler dans des bars, va galérer, est-ce que ça va prendre du temps à prendre?
Dans les bars, non, mais effectivement, ça va prendre du temps parce que on s'improvise pas comédienne et qu'il a fallu se casser le nez au cours de casting, beaucoup en télévision
être
notamment.
Être humiliée même dans les castings, comme on voit dans le film.
Ah bah oui, ça oui, effectivement, elle a raconté que ça ressemblait de ce point de vue-là à ce qu'elle avait vécu, quoi. Le côté le chef casting qui vous reçoit, qui vous demande de jouer telle scène et qui aussitôt s'affaire à son téléphone, ne vous écoute pas et vous devez comme ça de continuer comme si votre vie en dépendait. Oui, elle a connu ces humiliations-là, mais ça va, je trouve qu'elle n'a que 28 ans, elle n'a pas... La vache enragée, elle n'a pas trop mangé quand même, parce que son premier rôle qui lui permet de se faire remarquer, c'est en 2007, elle a 19 ans, c'est une comédie produite par Judd Apatow.
Puis après, il y a Spider-Man quand même, comme rôle marquant plus tard.
Bien après, elle a, pour Spider-Man, elle a déjà 23 ans. Elle a commencé à se faire un petit nom dans ce genre de teen movie.
Donc elle a démarré par la comédie, en fait.
Elle a démarré par la comédie, d'accord. Absolument. Et effectivement, Spider-Man a eu un impact. C'est-à-dire que tout d'un coup, on l'a vu dans un vrai grand rôle, une grosse production. Et
elle y est tombée amoureuse, et en plus, d'un comédien.
En plus, elle est tombée amoureuse de...
D'Andrew Garfield,
elle est tombée dans la toile tissée par Andrew Garfield.
Qui est donc celui qui interprète Spider-Man.
Qui est Spider-Man à l'écran.
Ensemble, ou pas?
Non, pas du tout. Ah, c'est une histoire qui a duré 3-4 ans, je crois. Elle reste très très discrète sur sa vie privée. D'ailleurs, pour avoir failli faire l'interview, je dis failli, c'est dommage, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour La La Land. Je devais aller à Los Angeles, mais un des préalables, c'était qu'on parle du film, mais pas du tout de sa vie privée. Et j'avais envie de dire, mais... c'est quoi votre vie privée? De toute façon, déjà, en France, la notoriété d'Emma Stone, elle va exploser aujourd'hui. Mais jusqu'ici, c'était pas gagné, quoi.
Emma Stone, qui a donc été sacrée meilleure actrice, elle l'emporte devant une légende du cinéma américain, du cinéma tout court, Meryl Streep. Elle a battu un record hier soir, celui du nombre de nominations aux Oscars. C'était sa 20e participation. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
Everybody, please join me in giving Meryl Streep a totally undeserved round of applause, will you?
RTL. You make
me a man of the midnight.
Jusqu'à 22h.
Disrespect. L'irrespect amène l'irrespect. Quand les puissants se servent de leur rang pour humilier les autres, nous sommes tous perdants.
C'est la plus grande artiste du 20e siècle. Elle a quelque chose de divin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Hier soir, elle était dans la salle aux côtés d'Emma Stone, Nathalie Portman ou Isabelle Huppert, mais pour elle, c'était presque une habitude. Meryl Streep était nommée aux Oscars pour la 20e fois, un record absolu et une carrière absolument extraordinaire que l'on va découvrir maintenant avec Carlos Gomez, journaliste cinéma. On va donner, Carlos Gomez, quelques chiffres pour commencer. Qui devance-t-elle? Quelques chiffres et quelques noms aussi. Qui devance-t-elle avec ses 20 nominations aux Oscars?
Elle devance Catherine Hepburn, paix à son âme, qui avait eu 12 nominations, qui avait gagné l'Oscar à 4 reprises. Ce qui est en soi le record, mais en nombre de nominations, personne n'a fait mieux, personne fera mieux de sitôt, quoi. Ça, c'est clair.
C'est combien d'années au sommet, Meryl Streep? Combien de films tournés?
77-2017, c'est 40 ans, c'est 78 films, disons quasiment en moyenne 2 par an. Mais c'est pas tout à fait la réalité, puisqu'il y a des trous, quoi. Parfois,
c'est
elle peut en faire 3 dans...
Deux par an?
Non, ce qui... c'est pas énorme. si on considère ce que fait Isabelle Huppert, par exemple, ces dernières années, elle tourne jusqu'à 4 films par an. Donc, c'est pas énorme, c'est une bonne moyenne, mais surtout, l'exploit, c'est d'en faire 2 par an qui fonctionnent, quoi, la plupart du temps, et pendant 40 ans. C'est ça l'exploit. Parce qu'elle pourrait cacher. Il n'y a pas un. Elle-même, elle vous dirait qu'il y a 2-3 films dans sa filmographie qu'elle récuse, mais globalement, il n'y a pas de film alimentaire dans ce qu'elle a fait. Ouais. Et curieusement, dernièrement, à nos amis de Allociné, elle a fait un aveu curieux, parce que je dis qu'il y a peu de films qu'elle récuse au motif que ce serait des navets, mais elle a même récusé la fiancée du... Pardonnez-moi, comment s'appelle ce...
Ah, ça, je peux pas vous aider. J'ai pas sa filmographie entière en tête.
C'est un film très connu.
La femme de l'officier français. Excusez-moi.
on va le retrouver.
Je vais le retrouver. Mais c'est un de ses meilleurs films. C'est un
en anglais. On laisse où là en anglais.
Ouais. Même en
bon, mais c'est pas grave.
Même en anglais. Mais c'est considéré comme un de ses très bons films. Ah, qui a très bien marché. Et pourtant, elle dit, j'étais pas dedans.
Bon, c'est pas très grave. Donc, elle est nommée pour la 20e fois aux Oscars hier soir. On l'a dit. Alors, pour un rôle que nous, on connaît en France, puisque la même histoire a été racontée et incarnée par Catherine Froh au cinéma. C'est l'histoire de Florence Foster Jenkins. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film avec Catherine Froh, Marguerite, ça raconte quoi ?
Ben, ça raconte l'histoire de Florence Foster, qui était une femme fortunée, qui avait hérité d'une somme colossale de sa vieille mère, qui avait une passion dans la vie. Je vous parle de ça, c'est les années 1920. Elle avait une passion dans
la maîtresse du lieutenant français. J'ai buzzé en un quart d'heure après, mais bon.
La maîtresse du lieutenant français.
Tous nos cerveaux supplémentaires et électroniques s'étaient mis en marche, là.
Quelle année, ne me demande le producteur 80... Gérald Chaland. Alors attendez, vous voulez 80... tous les détails.
80... Bon, voilà. Donc c'est bon. Donc ce film-là, on a compris, on ferme la parenthèse. Il est très bon, mais elle le récuse.
Et donc voilà, cette femme, comme elle avait de l'argent, elle s'est payée, elle s'est offert une carrière, quoi. Sauf qu'elle chantait devant des gens incrédules. Quoi, parce que elle chantait faux, elle chantait comme une casserole.
On écoute. Quelle horreur.
J'aurais tout à fait pu jouer ça.
Aïe aïe aïe. Comment massacrer la flûte enchantée de Mozart. Et pourtant.
Pardon, ça c'est Meryl Streep.
Ça c'est Meryl Streep, c'est Meryl Streep, c'est pas Catherine Froh, c'est Meryl Streep. Et pourtant Meryl Streep, elle sait très bien chanter La Preuve.
Qui chante du Ray Charles, You Don't Know Me. Et elle connaît bien la chanson. C'est un pilier de sa vie, la chanson.
Ah bah oui, c'est ce qu'elle voulait faire au départ. Et ça a commencé très tôt, quoi. Ça a commencé très tôt, c'est-à-dire qu'elle faisait partie de ses enfants qui chantent et chantonnaient tout le temps, quoi. Et un jour, elle a ébloui ses parents. C'était à Noël où elle a repris à la veille de Noël le Douce Nuit...
Dans la grande tradition des chants de Noël.
Dans la grande tradition. Ouais. Et les parents, stupéfaits, l'ont dit, mais elle travaille en secret, il y a quelque chose qu'elle ne nous dit pas. Donc, l'ont encouragée à prendre des cours, ce qu'elle a fait pendant 4 ans, jusqu'à l'âge où on commence à s'intéresser aux garçons. En fait, c'est les garçons qui ont eu la peau de sa carrière de chanteuse.
Mais elle voulait être chanteuse lyrique ?
Elle voulait être, au départ, chanteuse lyrique. Enfin, c'est-à-dire que lorsqu'on prend des cours à cette époque-là, on vous fait plutôt plus chanter Verdi ou Mozart que Beatles, lequel les Beatles ou Dylan qui étaient ces disques de chevet, quoi. Mais donc effectivement, pour apprendre, il fallait commencer par le classique, et c'est ce qu'elle a fait. Mais elle a compris aussi quand même assez vite que c'est un niveau d'exigence qu'elle n'aurait pas nécessairement.
Et ça l'a servi ensuite dans sa carrière au cinéma, puisqu'elle a interprété pas mal de rôles de chanteuse. Moi, je me souviens du très bon Ricky and the Flash. Et puis, il y a aussi, évidemment, quelques années plus tôt, c'était en 2008, l'adaptation de la comédie musicale du groupe ABBA, Mamma Mia.
You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you chante Dancing Queen dans Mamma Mia. C'est une actrice qui peut tout jouer, tout chanter. Mais comment a-t-elle débuté? Pour le savoir, on remonte en 1977. À tout de suite sur RTL.
Aïe.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
La La Land. La La Land.
My family, maman, papa, Jeff, hommage, je vous adore. Matt Pluff, you kicked this off.
I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
RTL.
This is not a joke. Moonlight, Best Picture.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était donc la 89e cérémonie des Oscars la nuit dernière à Hollywood. Soirée marquée, vous venez de l'entendre, par un énorme bug lors de l'annonce du meilleur film et par un record, celui de Meryl Streep, nommée pour la 20e fois, dont 16 dans la catégorie meilleure actrice. Et on parle et on retrace la carrière de Meryl Streep avec Carlos Gomez, journaliste cinéma. Un mot quand même de ce bug, Carlos, parce que c'est dingue, c'est une première dans l'histoire des Oscars.
Non, je crois qu'il y avait eu un... Je crois qu'il y avait eu un petit précédent, mais ce qui est drôle surtout, c'est que ça n'a pas été le seul bug lors de cette soirée. Il y en a eu un mineur. Pardonnez-moi.
Oui, avec dans les Oscars techniques, c'est ça.
C'est que tous les ans, on passe en revue ces chers disparus.
Ça c'est pire, ça.
Mort dans l'année, ouais. Et qu'il y a une productrice australienne qui a eu la mauvaise surprise, bien vivante, de se voir.
Dans la liste des disparus de l'année.
Au milieu des deux macabées de l'année.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'équipe de Trump qui a préparé les Oscars? Non,
c'est Poutine. C'est fake Oscars, ouais.
C'est Poutine. Non, mais c'est le genre de choses qui arrive. C'est un spectacle en direct. D'après ce qu'on sait, c'est que l'imprimeur des cartes a dû faire une double billetterie. Je ne sais pas où il a dû
imprimer. Il a imprimé deux fois la carte voilà. Meilleure actrice, alors, Emma Stone. Quoi.
Mais Warren Beatty n'a pas arrangé ses affaires. Warren Beatty, donc, qui remettait le prix, lorsqu'il a expliqué que en fait il a voulu corriger de lui-même parce qu'il disait avoir entre les mains le carton qui annonçait le prix
de prix précédent,
de Emma Stone,
ça, ouais. Oui, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Je pense que c'est un ensemble de facteurs, et notamment Warren Beatty, par coquetterie, et Faye Dunaway pareil, ferait bien de sortir leurs lunettes dans ces moments et que je pense qu'ils se sont dit
c'est drôle.
De toute façon c'est La La Land, donc
et du coup ça a donné cette scène
Fausse joie
pour Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land. Heureusement, il avait eu le prix du meilleur réalisateur. Et puis ensuite, l'équipe de Moonlight, qui est un film magnifique, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. C'est pas la même joie quand même de monter sur scène après. C'est un peu moins solennel, quoi. Donc,
c'est moins solennel, c'est moins carré. C'est-à-dire que lorsque Damien Chazelle va chercher le prix du meilleur réalisateur, c'est déjà énorme. S'il avait pris en plus celui du meilleur film, c'était réellement la consécration de La La Land. Là, il y a un petit bémol, et en plus, il y a un petit bémol en ayant eu la fausse joie d'avoir ce prix qui allait à l'autre réalisateur.
Et notre personnage fil rouge de notre interview, Carlos Gomez, Meryl Streep, qui était forcément dans l'assistance et qui a assisté à tout ça. Vous l'avez déjà rencontré, interviewé, Meryl Streep?
Oui, j'ai eu cette chance-là il y a assez longtemps. C'était en 92. 93, elle était venue à Paris pour la promo d'un film de Robert Zemeckis qui s'appelait La mort vous voici bien.
Ah, c'est pas un quiz là, vous l'avez.
Non. C'est une comédie fantastique, un film assez noir et cruel sur la dictature de la beauté et de l'âge à Hollywood, justement. Mm-hmm. Et ça avait été l'occasion de parler du métier, de son métier à l'époque.
Est-ce qu'elle est sympa? Parce que souvent, les comédiens américains de passage à Paris, ils vous donnent 6 minutes et puis...
Absolument.
Et
mais
puis, bas de froid.
Moi, j'étais très impressionné. D'abord parce que j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui et plus impressionnable qu'aujourd'hui. Mais oui, j'étais impressionné parce que c'était une grande actrice, c'était une grande dame. Mais parfois, on a quelqu'un que j'aimais beaucoup, comme le spectateur moyen. Mais après, il se passe une chose. Parfois, on a des déceptions. On rencontre de grandes idoles et on s'aperçoit qu'ils sont désagréables, qu'ils sont acariâtres. Alors que non, elle, il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise. C'était quelqu'un de délicieux, de doux, d'attentionné, qui m'a à un moment a voulu... ça se passait au Ritz. Elle voulait fumer une cigarette, on était samedi matin, elle m'a dit ça vous ennuie si je vais à la fenêtre, et à une époque on n'interdisait pas encore de fumer en public. J'ai dit mais non, bien sûr, avec grand plaisir. Et puis là-dessus on a parlé de choses et d'autres, et notamment de la chirurgie esthétique, où elle me disait, et c'était le sujet du film, je lui posais la question, mais est-ce que vous pourriez
Vous avez...
Vous avez... Mmh. Elle m'a dit non, 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 je suis déjà assez laide comme ça, a-t-il dit avec humour. Je peux laisser faire la nature et puis il y a des rôles pour chaque âge. Quoi.
Et parce qu'on dit qu'on ne trouve pas à Hollywood de rôles quand on n'est pas refaite, mais finalement, c'est peut-être Meryl Streep qui les a toutes, tous ces rôles de femme mûre.
De femme mûre, oui, mais en même temps...
Et les bons rôles.
Ce film que Thomas a beaucoup aimé, où elle joue une rockeuse, là, Ricky Flash. Là.
Oui, Ricky and the Flash.
Ricky
ouais.
and the Flash, elle a aujourd'hui, elle avait 65 ans lorsqu'elle tourne, mais... Elle peut en avoir à l'écran, on a l'impression qu'elle en a 40, 50. Elle est réellement, she rocks, quoi.
Oui, c'est son côté caméléon, ça. Vous l'avez pas découvert au cinéma. Votre premier souvenir de Meryl Streep sur un écran, c'était à la télévision.
Absolument.
C'était quelle série ?
C'était la série Holocaust, une série à gros budget américaine qui avait été diffusée en France à l'époque par Antenne 2, je pense. Mm-hmm. Donc je vous parle de ça, c'est 76, je vais avoir 15, 16 ans. L'Holocauste, on avait entendu parler en classe, mais le voir personnifié, le voir comme ça représenté, c'était assez fort, quoi. Et puis surtout, il y avait ce rôle qu'elle tenait. Elle jouait le rôle d'une femme arienne qui était tombée amoureuse d'un juif avant la guerre et qui va être précipitée dans cette folie de l'histoire. Et elle était juste merveilleuse, quoi. Il y avait une espèce de pâleur, je vous en parle, j'ai la chair de poule, sincèrement, quoi. Une espèce de pâleur, ses joues très roses, et puis cette espèce de manière de jouer en urgence, comme ça, c'était sublime, quoi. C'est vraiment la première fois. Et ça lui a valu son premier prix, c'était un Grammy, un Emmy Award.
Les prix de la télévision.
La télévision. Et ce qui est incroyable, c'est l'aveu qu'elle fait, où elle vous explique, et j'expliquerai peut-être après, c'est que elle l'a fait pour des raisons, pour penser à autre chose, quoi.
Alors on expliquera ça pourquoi. Tout à l'heure.
Vous écoutez RTL.
RTL. Le torchon brûle entre Meryl Streep et Karl Lagerfeld.
C'est inadmissible.
Le créateur a en effet annoncé que l'actrice ne serait pas vêtue d'une robe Chanel pour la cérémonie des Oscars, car cette dernière aurait demandé à être payée pour la porter.
La curiosité est un vilain défaut.
Un coup dur pour Meryl Streep qui voit sa popularité chuter à cause de cette déclaration.
C'est inadmissible.
Karl Lagerfeld a tout de même laissé la robe à Meryl Streep qu'il avait conçue sur mesure pour l'actrice.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
En dehors de tous ces potins, on vous raconte la carrière extraordinaire de Meryl Streep sur RTL à l'occasion de la 89e cérémonie des Oscars qu'il a vu battre le record de nominations, plus de 20 nominations.
Que la popularité de Meryl Streep va descendre en flèche avec cette mini polémique.
Carlos Gomez, qu'est-ce qui s'est passé alors? Meryl Streep s'est retrouvée au cœur d'une polémique avec Karl Lagerfeld.
Bah, elle s'en serait bien passée. C'est Karl Lagerfeld qui, s'adressant à un site consacré spécialisé mode, a fait le malin en disant que Meryl Streep finalement refusait de porter la robe Chanel qu'il avait faite spécialement pour elle, parce que au motif qu'elle aurait reçu une proposition d'une autre marque en échange de dollars sonnant et trébuchant.
On paye les actrices pour qu'elles portent des robes? Moi, je pensais que déjà elles les portaient, c'était super.
En principe non. Ou alors, il faut faire des. C'est un échange, c'est un contrat. Mais c'est vrai que, et on le sait depuis longtemps, qu'il y a un certain nombre d'actrices qui, backstage, acceptent
demande ou réclament payé.
Ou demandent à être payées en liquide, en plus. Donc,
bon, on va pas
ça
passer.
Ça existe, mais c'est pas.
Elle l'a trouvé peut-être juste moche, la robe, c'est non, tout, c'est la robe Chanel.
Bon, on va pas passer deux heures sur
les ça. Mais je trouve que pour le coup, ça ne ressemble pas à Meryl Streep du tout.
Ouais. Et elle a demandé des excuses qui, pour l'instant, n'ont pas été totalement.
Il a rétropédalé,
oui, mais sans employer le mot excuse. Bon, allez, on passe là-dessus parce qu'il y a encore plein de choses à raconter sur la carrière de Meryl Streep et c'est beaucoup plus intéressant.
Oui.
Notamment pour terminer l'histoire dont on parlait tout à l'heure, ce premier grand rôle à la télévision. Donc, on est au milieu des années 60. 10, elle est toute jeune, hein, et elle a quoi, une trentaine d'années, même pas?
Ah non,
moins que ça.
Elle a 26 ans.
26 ans, c'est ça, et donc c'est la série Holocaust.
Holocaust.
Pourquoi vous dites qu'elle a accepté ce rôle pour des raisons un peu particulières?
Bah, elle l'a accepté d'abord parce que elle est depuis deux ans, elle vit le parfait amour avec un garçon qui s'appelle John Cazale, un acteur italo-américain. Si vous avez vu Le Parrain, c'est le mouton noir de la famille Corleone, c'est le frère qui finira par trahir Al Pacino, alias Michael Corleone. Un acteur assez, comme ça, assez fort, assez emblématique, qui n'a tourné que 5 films dans sa vie, dont Le Parrain 1 et 2, dont Voyage au bout de l'enfer de Cimino, avec Meryl Streep. Et en fait,
il est malade, c'est l'année, ça, à ce
moment-là. Il est malade, il est en phase terminale. Elle a accepté ce rôle pour pouvoir payer ses soins médicaux, puisque lui, il ne travaille plus, il a peu travaillé. C'est un bohème. Et donc, elle prend en charge sa santé à ce moment-là. Et elle dit qu'elle a joué, d'abord, l'Autriche, c'est très joli, mais dans les conditions imposées déjà par le sujet du film, et puis en sachant son homme à l'autre bout, de l'autre côté de l'Atlantique, en train de mourir doucement, elle n'est pas bien, quoi. Elle n'est pas bien. Et elle avouera avoir joué en pilote automatique. Et pourtant, il suffit de la revoir pour dire plutôt l'inverse. Elle était vraiment dedans, quoi. Elle était dans l'émotion.
Meryl Streep, nommée 20 fois aux Oscars, et dès 1980, parce qu'on va commencer à les égrener, ces Oscars quand même, elle est récompensée aux Oscars pour son rôle dans Kramer contre Kramer.
Kramer contre Kramer, vous nous rappelez quel personnage elle interprète? C'est une histoire de couple
C'est un couple qui se déchire. Elle est mariée au personnage que joue Dustin Hoffman. Ils ont une victime collatérale de ce divorce, c'est un petit garçon. Donc elle, c'est une femme plutôt indépendante qui décide de rompre et plante son mari et son fils. Et puis à un moment, elle se ravise, elle revient et compte obtenir la garde de son enfant. Et donc le film a marqué les esprits à une époque où déjà les divorces étaient en flèche en France et partout ailleurs.
Et là, c'est quel Oscar qu'elle gagne, Meryl Streep?
Meilleur second rôle, c'est son deuxième film, troisième film, et tout de suite elle impose. Et pourtant ça s'est très très mal passé
le tournage. Pourquoi?
Dustin Hoffman a été odieux, il est allé la piquer pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même, à la faire pleurer pour qu'elle soit dans l'émotion absolue. Elle a accepté le jeu. Elle n'a pas adoré ça. Lui a fait un mandat honorable des années après. Mais ça a été un moment très, très complexe. Mais là où elle a été intelligente, et là où c'est une actrice intéressante, c'est qu'il y a des scènes qu'elle a fait réécrire. Parce que la première... Elle est quand même gonflée. Imaginez, elle va au premier rendez-vous avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, Marathon Man, grande vedette.
C'est déjà une grande star. Oui.
Déjà une grande star. Elle arrive, cette gamine, deux malheureuses apparitions dans un film. On lui propose ce rôle. On commence par lui dire qu'elle n'est pas assez jolie. Bon, déjà ça...
Faut l'avaler, ouais. Faut
elle encaisse.
Ouais.
Et puis, lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'elle pense du rôle, elle dit « c'est un peu manichéen, quoi. Moi, je veux bien le faire, mais il faut réécrire, parce que les raisons pour lesquelles cette femme dit revenir, j'y crois pas. Dans la vie, ça se passerait pas comme ça. Wow. » Donc, vous voyez, du coup, ça met la barre très haut, quoi. Mais elle est exigeante. Du coup, elle accepte aussi qu'on soit exigeante avec elle. Quitte à être un peu pervers comme l'a été.
Et ça finit en Oscar.
Et donc elle va enchaîner les Oscars, puisqu'en 82, elle reçoit là l'Oscar de la meilleure actrice pour le choix de Sophie. Alors écoutez, dans la version française, c'est aussi Meryl Streep qui joue le rôle.
Je t'en prie, ne parle pas. Non, ne me quitte pas, je t'en prie. Tu as besoin d'un autre, n'est-ce pas?
Moi, besoin de toi. Laisse-moi te dire une chose. Moi, j'ai à peu près autant besoin de toi que d'une putain de maladie pourrie.
Elle n'a pas été doublée, Carlos Gomez, pour la version française. C'est assez rare, quand même.
Je pense qu'elle est doublée sur la quasi-totalité du film, mais il y a des phrases qu'elle disait effectivement en français qu'on a conservées.
Avec un fort accent autrichien, polonais,
un peu allemand, puisque ce sont effectivement, chaque film représente pour elle un défi, et sur celui-ci, le choix de Sophie s'agissait de pouvoir jouer avec un accent polonais naturel.
Et parmi les films de Meryl Streep, une magnifique histoire d'amour, celle du film Out of Africa, elle a décroché le rôle facilement.
Non, là encore, c'est très curieux. Alors là, pour le coup, elle avait déjà fait ses preuves, et Sydney Pollack, comme les autres, dit non, mais face à Robert Redford, je voyais une actrice un peu plus sexy, quoi. Elle entend ça et elle va au rendez-vous suivant avec un chemisier bien décolleté. Une façon de lui dire ça va, c'est bon, on peut y aller. Mais c'est quand même assez terrible, quoi. Après, il s'est passé une chose curieuse, on ne prête qu'aux riches, mais c'est arrivé sur Out of Africa où elle avait pour partenaire Robert Redford, mais c'est arrivé aussi peu après avec Clint Eastwood sur La route de Madison. On lui a prêté des aventures, des petites idylles avec l'un et l'autre. Et bon, la presse People a bien fait son travail, mais c'était plus de l'ordre de la promo à son insu, de la promo bien montée, que de véritables histoires. D'ailleurs, elle a eu une phrase assez drôle lorsque un jour quelqu'un s'est aventuré, un journaliste s'est quand même aventuré à lui dire: mais avec Clint Eastwood, c'est vrai ou c'est pas vrai? Elle, avec une forme de dédain comme ça joué, lui a dit: non, mais attendez, je ne répondrai même pas à cette question, c'est comme si vous me demandiez si j'étais pas comédienne, quoi. Non, ça ne m'intéresse pas, passons à autre chose, c'est ridicule. En plus, elle est mariée au même homme depuis 40 ans cette année.
Meryl Streep, qui est aussi une actrice engagée, notamment en ce moment face à Donald Trump. Restez avec nous sur RTL.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Elle n'a pas remporté l'Oscar hier soir, mais elle était nommée pour la 20e fois, record absolu à Hollywood. On découvre la carrière de Meryl Streep grâce à notre invité, le journaliste cinéma Carlos Gomez. Meryl Streep, vraiment hors norme. Ça lui a d'ailleurs valu un Golden Globe pour l'ensemble de sa carrière. C'était en janvier dernier. Elle en a profité pour dire tout le mal qu'elle pense de Donald Trump sans jamais le nommer.
L'irrespect amène l'irrespect. La violence incite à la violence. Quand les puissants se servent de leur rang pour humilier les autres, nous sommes tous perdants.
À ce discours de Meryl Streep, il a réagi comment, Donald Trump, Carlos Gomez?
Très mal, encore récemment.
Il a tweeté?
Oui, il a tweeté, il a dit cette femme qui me descend alors qu'elle ne me connaît pas, alors qu'elle n'est en plus qu'une actrice surcotée. Et elle l'a traité aussi de caniche de Hillary, en faisant un jeu de mots.
Parce que Meryl Streep s'était engagée auprès d'Hillary Clinton,
oui,
dans la campagne.
Oui, de toute façon, elle est profondément et historiquement démocrate, puisqu'elle avait aussi, elle s'est engagée pour Kerry en 2004. Et que pour elle, l'engagement a commencé quand elle a 20 ans, en 68, 69. Nixon va engager les États-Unis non seulement au Vietnam, mais aussi en Corée, et qu'elle manifeste avec ses camarades. La conscience prend naissance ce jour-là.
Ouais. Et elle a été soutenue hier soir.
Ah mais il est tout.
Ils sont le présentateur, le monsieur loyal de la soirée est revenu sur cette Jimmy Kimmel, polémique avec Trump.
oui, il a ironisé, c'était assez drôle d'ailleurs, parce que il disait: je tiens à ce qu'on salue quand même la plus surcotée de nos actrices. D'ailleurs, elle n'est ici qu'au titre d'un film que personne n'a vu, qu'elle n'a d'ailleurs même pas tourné. On s'est contenté de mettre un nom sur un papier et de faire voter. Ouais. Ça lui a valu une ovation générale, parce qu'elle est respectée, quoi. Elle est respectée, elle est aimée.
Et dans les combats de Meryl Streep, il y a le
Denzel Washington, pardon, ouais. Thomas a dit, mais il faudrait qu'on modifie la statue des Oscars, quoi. Il faudrait qu'on fasse une effigie
de Meryl Streep.
Ouais, à l'image de
Meryl
Streep.
Une femme, vous voulez dire.
Une femme en plus.
Oui, ça serait bien. Et justement, la cause des femmes, et notamment des comédiennes, des réalisatrices, des scénaristes à Hollywood, elle défend cette cause. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins bien représentées, moins bien payées aujourd'hui encore.
Oui, parce qu'il y a quelques temps, effectivement, elles faisaient partie de celles qui sont montées au créneau pour dire qu'il était pas normal qu'une femme soit globalement un tiers, voire la moitié moins payée qu'un homme à travail égal. Donc parmi les choses concrètes qu'elle a fait, elle a créé une espèce de labo consacré à labo fondation pour les scénaristes de plus de 40 ans, pour qu'elles puissent continuer à écrire, parce qu'aujourd'hui sont pénalisées les actrices de plus de 40 ans, mais les auteurs aussi, quoi.
Tous les gens d'expérience, quoi.
Tout, oui. Et a fortiori s'il s'agit de femmes.
Surtout quand ce sont des femmes. Donc elle n'est pas seulement dans la représentation ou dans la parole, elle est aussi dans l'action, c'est ce qu'on comprend avec ce labo, cette fondation. Parmi, on a cité deux de ces Oscars, elle en a eu trois au total, c'est ça, Carlos?
Elle en a eu trois, donc le premier pour Kramer contre Kramer, mais c'était meilleur second rôle. Il y a eu Le choix de Sophie en 83, et il y a eu en 2012 La Dame de Fer, où elle jouait... où elle jouait Margaret Thatcher.
Alors comment elle l'a préparé ce rôle? Parce qu'elle est quand même perfectionniste, Meryl Streep.
Ah oui, oui, mais elle se, en fait, elle a, vous disiez caméléon, et c'est vraiment le terme, quoi. Depuis toute petite, elle apprend à observer et à reproduire. Là, de la même manière, lorsqu'il s'est agi de jouer la Dame de Fer, en fait, elle a ingurgité tout ce qui existait comme doc, comme reportage d'époque.
Comme vidéo. Ouais.
Voilà, pour apprendre une gestuelle, une manière de placer la voix, l'accent, une posture, un body language. Quoi. Ouais. Et elle a fait ça de manière très, très patiente et très, très déterminée.
On a assez peu parlé de sa vie privée. Oui. Meryl Streep, elle est mariée, vous nous l'avez dit, depuis 40 ans avec le même homme. Elle a des enfants ?
Elle a quatre enfants. Elle a quatre enfants, un fils, trois filles. Le fils est un rocker. Il va de groupe en groupe. Elle a deux de ses filles qui sont actrices. La dernière est trop jeune, visiblement, elle ne s'est pas encore déterminée. Mais oui, c'est un clan soudé, un clan solide. Elle continue à vivre dans le Connecticut où elle a grandi, dans une petite ville, très low profile. Une vie vraiment normale, quoi, so American. Ça aurait dû plaire à Donald Trump, finalement.
Alors on va terminer avec une anecdote. On aurait pu commencer par cette anecdote aussi, parce que c'est assez révélateur de la dureté d'Hollywood. Ça nous ramène aussi au destin du film, à l'histoire du film La La Land et à l'histoire d'Emma Stone. C'est une histoire de casting qui concerne Meryl Streep et qui prouve que ça n'a pas toujours été facile. Qu'est-ce qui lui arrive à les jeunes comédiennes quand elles se présentent au casting de King Kong ?
De King Kong ? Oui, 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 c'est quand même King Kong. Donc, Dino De Laurentiis, le grand producteur italien qui avait produit notamment les grands films de Fellini, est aux États-Unis parce qu'il veut développer King Kong, faire le remake de King Kong. Mmh. Et il cherche une actrice blonde, jeune, jolie, sexy. Et donc, on lui présente tout un tas de candidates, parmi lesquelles Meryl Streep. Et cet homme, qui ne se fera pas remarquer par sa délicatesse, sa distinction, en face de lui, une fille qu'il ne trouve pas jolie, Meryl Streep, et il dit « ma che brutta », ce qui en italien veut dire « mais qu'est-ce qu'elle est moche ».
Le problème, c'est sa présence.
En sa présence. Ouais. Le problème, c'est qu'elle a fait italien au collège.
Et donc elle
que sur le même ton en italien, elle lui a dit des mots peu amènes.
Ma che cogno, tout ça, voilà.
M'interdit. Bon,
de, quel con. Ouais. Tout ce qu'il méritait. Ouais.
Bah, elle a eu raison.
Mais nous, on peut le faire, hein, si vous voulez, Carlos Gomez.
Et donc, elle raconte ça dans une interview. Elle dit elle lui a prouvé qu'il avait tort, quoi. Bah, avec le nombre de rôles, le nombre de nominations aux Oscars. Et,
oui, il a eu tort, mais en même temps, voilà, je pense que ce genre d'épisode fonctionne comme des révélateurs de vocation aussi. Mmh. Sauf que, en fait, au début, Meryl Streep, à force de prendre râteau sur râteau, elle s'est dit le cinéma, plus jamais, quoi. Je crois qu'après Kramer contre Kramer, non, c'était après Julia, son tout premier film avec Jane Fonda. Elle a dit non, non, tout ça, c'est des histoires d'ego dans lesquelles je n'ai pas ma place, quoi. Le cinéma, nevermore. Mais heureusement, elle n'a pas tenu promesse.
Heureusement, elle a tenu le coup et elle en est donc à 20 nominations aux Oscars. Record.
Et bientôt un autre Oscar, j'en suis sûr.
Record à battre. Hein,
le record à l'envers est pas mal non plus, parce que 3 victoires, c'est aussi 17 défaites.
Quoi. Oui, mais elle est là à chaque fois.
On repart à la maison.
Elle est là à chaque fois.
Quel cran il faut, non ?
Oui, elle est là à chaque fois, ce que les comédiens français ne font pas toujours.
Hein, merci beaucoup à vous, Carlos Gomez.
Merci
à bientôt, micro de la curiosité.
À très bientôt, je crois que vous préparez un livre sur le Festival de Cannes. Ça serait sympa de venir nous en parler.
Ce sera avec grand plaisir. À paraître fin avril.
Vous écoutez RTL.